La revue de presse internationale.
Thomas Cluzel, ce matin, les citoyens ont-ils encore le pouvoir de se faire entendre ?
Oui, direction l'Italie tout d'abord, où la mère de toutes les réformes, ainsi que l'a qualifié le président du Conseil, Matteo Renzi, a été adoptée hier. Alors de quoi s'agit-il ? Le projet de loi modifie en profondeur la constitution du pays, puisque si jusqu'à présent la Chambre des députés et le Sénat avaient les mêmes pouvoirs, dorénavant, la Chambre basse votera seule la confiance au gouvernement et la majorité des lois, tandis que le Sénat ne sera plus qu'une simple assemblée consultative. Et même si la transition de l'ancienne à la nouvelle sera lente, le Sénat, tel que le prévoit la réforme, ne naîtra pas avant 2020. D'ores et déjà, les critiques fusent. Si les fonctions et les sièges seront drastiquement réduits, ce n'est pas le cas des dépenses, regrette notamment la Stampa, le quotidien de Turin, qui estime à 20% seulement la baisse des coûts de fonctionnement de la nouvelle Assemblée. Et puis surtout, les opposants craignent que cette réforme ne renforce l'exécutif. En clair, que le pouvoir se concentre toujours plus entre les mains du Premier ministre. Le journal suisse Corriere del Ticino, repéré par Eurotopix, ne cache pas lui non plus son scepticisme. Avec cette réforme, l'exécutif sera à coup sûr renforcé. Alors ce n'est pas plus mal quand on sait que les gouvernements restent en place pour une durée moyenne d'un an, sauf qu'il s'agit en réalité d'un affaiblissement de la démocratie représentative. Et pourquoi ? Parce que la nouvelle loi électorale transformera le Sénat en une assemblée de nominés. En d'autres termes, les citoyens italiens seront de moins en moins à même de choisir leurs propres représentants. Ni la réforme constitutionnelle ni la nouvelle loi électorale ne favoriseront donc la participation active des citoyens à la vie politique. Or, sans cette participation, fût-elle sentimentale ou passionnée, la démocratie ne sera plus qu'un rituel formel. Et le journal d'en conclure, on aura certes un leader puissant, indubitablement habile et porté par une conjoncture favorable, mais rien de plus.
Et quand les citoyens au pied du mur, Thomas, ont le sentiment de ne plus être entendus, c'est également ce qui ressort aujourd'hui des négociations autour du traité de libre-échange transatlantique.
Oui, les manifestations contre le TTIP entre l'Union européenne et les États-Unis continuent. Ils étaient encore près de 200 000 personnes dans les rues de Berlin le week-end dernier. Et quelques jours auparavant, cette fois-ci, c'est une pétition de plus de 3 millions d'Européens qui a été remise à la commissaire chargée du commerce et des négociations. Dans une interview au Tagesspiegel, reprise sur le site du magazine Slate, Cecilia Malmström avait d'ailleurs reconnu elle-même qu'elle serait, je cite, folle de nier qu'il y a en effet un débat houleux dans de nombreux pays. En revanche, ceux qui avaient espéré y lire là une preuve de sa capacité d'écoute en sont aujourd'hui pour leurs frais. Dans une interview au journal de Londres, The Independent, le directeur de l'organisation caritative War on Wants, engagée contre le TTIP, explique s'être rendu à Bruxelles pour discuter avec Cecilia Malmström. Lors de notre entrevue, je lui ai demandé comment elle pouvait continuer sa promotion persistante du traité devant une opposition publique aussi massive, et sa réponse fut aussi froide que limpide. Mon mandat ne provient pas du peuple européen.
Enfin, tandis qu'Israël a connu hier sa journée la plus sanglante depuis le début des violences entre Palestiniens et Israéliens, nombre de journaux s'interrogent toujours face à ce que certains appellent désormais l'intifada des couteaux.
Mais que faire face au terrorisme du couteau ? C'est notamment la question posée par le quotidien Yediot Aharonot, repris sur le site du courrier international, sans y apporter d'ailleurs de réponse, dès lors que cette menace n'a besoin ni d'infrastructures terroristes, ni de donneurs d'ordre, ni de laboratoires d'explosifs, ni d'armes. Elle est quasi impossible à déjouer. Et de fait, ces jeunes hommes et jeunes femmes ne sont liés à aucune organisation. Ils sont sortis de nulle part, d'où l'effet terrorisant de cette vague d'attaques que certains chroniqueurs qualifient donc d'intifada des couteaux. La triste vérité, c'est que peu importe le nom qu'on donne à ce mouvement, ce qui est important, c'est la réalité et surtout la reconnaissance de cette réalité, estime pour sa part The Jerusalem Post. Avant de préciser, le gouvernement israélien se contente d'adopter de nouvelles mesures contre les violences palestiniennes. Or, ce ne sont là que des solutions d'ordre tactique qui révèlent une étroitesse d'esprit, ou dit autrement, il n'y a aucune volonté de la part des politiques de s'attaquer au vrai problème. Car si l'engrenage infernal est en marche, précise à son tour le Temps de Genève, il n'a jamais cessé de l'être en réalité depuis des années. Le déferlement de violences actuelles en est le fruit bien d'un avantage que la cause. Quand le Premier ministre Benjamin Netanyahou déclare mener une guerre jusqu'à la mort contre le terrorisme palestinien. De son côté, le président palestinien Mahmoud Abbas dénonce, lui, les provocations des colons, sans pour autant offrir un horizon quelconque à cette génération sacrifiée, autre que celui de ramasser des pierres sur le bord de la route. D'un côté, la mise à jour donc du vrai visage qu'a pris Israël dans ses rapports avec les Palestiniens, et puis de l'autre, l'absence totale de perspective et de direction politique. Or, cette double logique à l'œuvre, conclut le journal, ne pourra mener qu'au pire à mesure que les années passent.